Matière à réflexion. L'amour est aveugle. Extrait d'un recueil de nouvelles intitulé Le Loup-garou de Boris Vian. Le 5 août à 8 heures, le brouillard couvrait la ville. Il ne gênait pas du tout la respiration et se présentait sous une apparence singulièrement opaque. Il semblait en outre forcément teinté de bleu. Il s'abattit en nappe parallèle. D'abord, il moutonnait à 20 cm du sol et l'on marcha sans voir ses pieds. Une femme qui habitait au numéro 22 de la rue Saint-Brakmar laissa tomber sa clé au moment d'entrer chez elle et ne put la retrouver. 6 personnes, dont un bébé, vinrent à son aide. 1362 clés et 14 chiens s'égarèrent ainsi dans la première matinée. Las de surveiller leurs bouchons en vain, des pêcheurs devinrent fous et partirent pour la chasse. Le brouillard s'entassait en épaisseur considérable au bas des rues en pente et dans des creux. En longue flèche, il filait par les égouts et les puits des rations. Il envahit les couloirs du métro qui s'arrêta de fonctionner lorsque le flux Letto atteignit le niveau des feux rouges. Mais à ce moment-là déjà, la troisième nappe venait de descendre et dehors, on baignait jusqu'aux genoux dans une nuit blanche. Ceux des quartiers hauts, se croyant favorisés, raillèrent ceux du bord du fleuve. Mais au bout d'une semaine, tous furent réconciliés et purent se cogner de la même façon contre les meubles de leur chambre, car le brouillard s'était maintenant installé jusqu'au sommet des constructions les plus hautes. Et si le clocheton de la cour fut le dernier à disparaître, en fin de compte, la poussée irrésistible du raz de marée opaque le submergea tout entier. Auvers-la-Tuile se réveilla le 13 août d'un sommeil de 300 heures. Il sortait d'une cuite un peu sévère et se crut tout d'abord aveugle. C'était faire bien de l'honneur aux alcools qu'on lui avait servis. Il faisait nuit, mais d'une nuit différente. Car les yeux ouverts, il ressentait l'impression que l'on éprouve lorsque le jet d'une lampe électrique tombe sur les paupières closes. D'une main malhabile, il chercha le bouton de la radio. Elle marchait et les informations l'éclairèrent à demi. Sans tenir compte des commentaires oiseux du speaker, Auvers-la-Tuile réfléchit, se gratta le nombril et reconnut en flairant son ongle qu'il méritait un bain. Mais la commodité de ce brouillard jeté sur toutes les choses comme le manteau de Noé sur Noé, ou comme la misère sur le pauvre monde, ou comme le voile de Tani sur Salambo, ou comme un chat sur un violon, le fit conclure à l'inutilité du bain. D'ailleurs, ce brouillard avait une douce odeur d'abricot poitrinaire et devait tuer les relents personnels. En outre, le son portait bien et les bruits prenaient. À s'envelopper de cette ouate, une curieuse résonance, claire et blanche comme la voix d'un soprano lyrique, dont le palais défoncé par une chute malencontreuse sur le mancheton d'une charrue serait remplacé par un appareil de prothèse en argent forgé. D'abord, Orvet balaya de son esprit tous les problèmes et décida d'agir comme s'il ne rien n'était. En conséquence, de quoi il se vêtit sans mal, car ses vêtements étaient rangés à leur place, c'est-à-dire les uns sur des chaises, d'autres sous le lit, les chaussettes dans les souliers, un des souliers dans un vase et l'autre sous le pot de chambre. « Bon Dieu !» se dit-il. « Quel drôle de truc que ce brouillard !» Cette réflexion sans grande originalité le sauva du dithyrambe, de l'enthousiasme ordinaire, de la tristesse et de la noire mélancolie, en plaçant le phénomène dans la catégorie des choses simplement constatées. Mais il s'enhardissait peu à peu et s'accoutumait à l'inhabituel au point d'envisager quelques expériences humaines. « Je descends chez ma logeuse et je laisse ma braguette ouverte, » dit-il. « On va bien voir s'il y a du brouillard ou si c'est mes yeux. » Car l'esprit cartésien du français le porte à douter de l'existence d'un brouillard opaque, même s'il est assez pour lui boucher la vue. Et ce n'est pas ce que l'on peut dire à la radio qui risque d'orienter sa décision pour lui faire conclure à l'étrange. La radio, c'est tous des abrutis. Bon, je la sors, dit Orvet, et je descends comme ça. Il a sorti et descendit comme ça. Pour la première fois de sa vie, il remarqua le craquement de la première marche, le grincement de la seconde, le criquement de la quatrième, le croquement de la septième, le froutement de la dixième, le chuintement de la quatorzième, le bruitement de la 17e, le gimement de la 22e et le zouillement de la rampe en laiton dévissée de son support terminal. Il croisa quelqu'un qui montait en se tenant au mur. « Qui est-ce » dit-il en s'arrêtant. « Leron !» répondit Leron, le locataire d'en face. « Bonjour !» dit Hervey. « Ici la tuile !» Il tendit la main et rencontra quelque chose de ferme qu'il lâcha avec étonnement. Leron eut un rire gêné. « Faites excuse, dit-il. Mais on ne voit rien, et ce brouillard est diablement chaud. »« C'est vrai, dit Hervey. » Pensant à sa braguette ouverte, il fut vexé de constater que Leron avait eu la même idée que lui. « Alors, au revoir, dit Leron. »« Au revoir, dit Hervey, en lâchant sournoisement les trois crans de sa ceinture. » Son pantalon lui tomba sur les pieds et il le retira. Puis il le précipita dans la cage de l'escalier. C'est un fait que ce brouillard était chaud comme une caille fiévreuse. Et si Leron se baladait avec son bazar à l'air, Hervey ne pouvait pas rester habillé comme ça. Tout ou rien, sa veste et sa chemise volèrent. Il garda ses souliers. En arrivant en bas de l'escalier, il cogna doucement au carreau de la loge. « Entrez !» dit la voix de la pipelette. « Il y a du courrier pour moi ?» demanda Hervey. « Oh, monsieur Latuile !» s'esclaffa la grosse dame. « Toujours le mot pour rire. Alors, vous avez bien dormi comme ça ?»« J'ai pas voulu vous déranger. » Mais vous auriez vu les premiers jours de ce brouillard. Tout le monde était fou. Et maintenant, on s'habitue, quoi. Il reconnut qu'elle s'approchait de lui au parfum puissant, qui réussit à franchir la barrière laiteuse. « Il n'y a que pour se faire se manger que c'est pas très commode, dit-elle. C'est drôle, ce brouillard. Ça nourrit. Comme qui dirait. Moi, tenez, je mange bien. Eh ben, depuis 3 jours, un verre d'eau, un bout de pain, et je suis contente. Oh, vous avez maigri, dit Hervey. Ah, gloussa-t-elle, avec son rire comme un sac de noix qui descend du 6e étage. Tâtez voir, monsieur Hervey. J'ai jamais été aussi en forme. Même mes estomacs qui remontent. Tâtez voir. Mais, dit Hervey. Tâtez voir, je vous dis. Elle lui prit la main au jugé et la posa sur la poitrine d'un des estomacs en question. Étonnant, constata Hervey. Et j'ai 42 ans, dit la logeuse. Hein, on le dirait plus, hein. Ah, celles qui sont comme moi, un peu fortes d'un sens. Ça les avantage. Hein. Mais bon sang, dit Hervey, frappé. Vous êtes à poil. Et vous, dit-elle. Ah, c'est vrai, se dit Hervey. Quelle drôle d'idée j'ai eu là. Ils ont dit à la TSF, poursuivit le jeu, que c'est un aérosol afro-biasiatique. Ah, dit Hervey. La logeuse venait en contact avec une respiration courte et il eut un instant la sensation d'être refait par ce sacré brouillard. Écoutez voir, madame Panuche, implora-t-il. On n'est pas des bestiaux. Si c'est un brouillard aphrodisiaque, faut se retenir, crénom. Oh, oh, dit Madame Patuche d'une voix entrecoupée, et elle plaça ses mains avec précision. Ah, ça m'est égal, dit Hervey, très digne. Débrouillez-vous, moi je m'occupe de rien. Bon, marmonna la logeuse sans perdre contenance. Monsieur Leron est plus aimable que vous. Avec vous, faut faire tout le travail. Écoutez, dit Hervey, je ne suis pas habitué, quoi. Je vais vous montrer, dit la logeuse. Puis il se passa des choses sur lesquelles il vaut mieux jeter le manteau du pauvre monde comme la misère de Noé, de Salambo et du voile de Tanit sur un violon. Hervey sortit de la loge très fringant. Dehors, il prêta l'oreille. Voilà ce qui manquait, le bruit des voitures. Mais d'innombrables chansons s'élevaient. Des rires fusaient de toutes parts. Un peu étourdi, il s'avança sur la chaussée. Ses oreilles n'étaient pas habituées à un horizon sonore d'une telle profondeur. Il s'y perdit un peu. Il s'aperçut qu'il réfléchissait à voix haute. « Bon Dieu, dit-il, un brouillard aphrodisiaque. » Comme on le voit, les réflexions en question variaient peu. Mais il faut se mettre à la place d'un homme qui dort pendant 11 jours, qui se réveille dans une obscurité totale, compliquée d'une sorte d'empoisonnement licencieux et généralisé, qui constate que sa grosse logeuse croulante s'est transformée en une valkyrie au sein aigu et plantureux, Circé avide d'une caverne de plaisir imprévu. Mince, dit Hervey, pour préciser sa pensée. S'apercevant soudain qu'il était debout en plein milieu de la rue, il prit peur et recula jusqu'au mur, dont il suivit la corniche pendant 100 mètres. Là, c'était la boulangerie. Une hygiène appliquée lui ordonnait de consommer quelques nourritures après toute activité physique notable, et il entra pour manger un petit pain. Il y avait grand bruit dans la boutique. Hervey était un homme de peu de préjugés. Mais lorsqu'il comprit ce qui exigeait la boulangère de chaque client et le boulanger de chaque cliente, il sentit ses cheveux se dresser sur la tête. « Si je vous donne un pain de 2 livres, dit la boulangère, je suis en droit de vous demander le format correspondant, diable. »«
Mais, madame, protesta l'organe aigu d'un petit vieillard en qui Orvet reconnut M. Curpipe, le vieil organisme du bout du quai. « Mais, madame,
et vous jouez de l'orgue à tuyaux, dit la boulangère. M. Curpipe se fâcha. « Je vous enverrai mon orgue, dit-il, fièrement. » Et il se dirigea vers la sortie. Mais Orvet était là, et le choc lui coupla la respiration. « Au suivant, glapit la boulangère. « Je voudrais du pain, dit Orvet, avec peine en se massant l'estomac. « Un pain de 4 livres pour monsieur la tuile, vociféra la boulangère. « Non, j'ai mis Orvet, un petit pain. « Mufle, dit la boulangère. Et s'adressant à son mari. « Tiens, Lucien, occupe-toi de lui, ça lui apprendra. » Les cheveux d'Orvet se dressèrent sur sa tête et il s'enfuit à toutes jambes, en plein dans la vitrine. Elle résista. Il en fit le tour et sortit enfin. Dans la boulangerie, l'orgie continuait. Le mitron s'occupait des enfants. « Enfin, bigre !» mougrait Orvet sur le trottoir. « Si je préfère choisir, moi !» Avec la gueule qu'elle a, cette boulangère. Et puis, il se rappela la pâtisserie, après le pont. La serveuse avait 17 ans et la bouche en cœur. Et un petit tablier gaufré. Peut-être qu'elle ne portait rien que ce petit tablier. Orvet partit à grands pas vers la pâtisserie. Il tomba 3 fois sur des corps enlacés dont il ne s'amusa pas à répéter les combinaisons. Mais, dans un corps au moins, ils étaient 5. « Rome, murmura-t-il, Covalis, Fabiola, et cum spirito tu, les orgies, oh !» Il se frottait la tête, ayant récolté à la suite de son contact avec la vitrine un œuf de pigeon des mieux venus. Et il pressait l'allure, car une présence qui participait de sa personne, mais le précédait d'une bonne longueur, l'incitait à arriver le plus vite possible. Pensant qu'il approchait du but, il tâcha de rejoindre les maisons sans se guider au toucher. Il reconnut la vitrine de l'antiquaire, au disque rond de contreplaqué boulonné, qui maintenait en place une des glaces fêlées. À la pâtisserie dans 2 maisons. Il se heurta de plein fouet au corps immobile qui lui tournait le dos. Il poussa un cri. « Oh !
Poussez pas d'une grosse voix. Et tâchez moyen de m'enlever ça des fesses, sinon vous allez vous faire murer la gueule.
« Mais qu'est-ce que vous croyez ?» dit Orvet.
Il obliqua à gauche pour dépasser. Second choc.
« Alors quoi ?» dit une autre voix d'homme. « À la queue, comme tout le monde. »
Il eut un grand rire.
« Hein ?» dit Orvet. « Oui, dit une troisième voix, bien sûr. Vous venez pour Nelly. »«
Ah bah oui, balbutia Orvet.
« Bon, prenez la queue, dit l'homme. On est déjà 60. »
Orvet ne répondit rien. Il était navré. Il repartit sans savoir s'il avait son petit tablier gaufré. Il prit la première à gauche. Une femme venait en sens inverse. Ils tombèrent tous deux assis par terre. «
Oh, je m'excuse, dit Orvet. « C'est ma faute, dit la femme. Vous teniez votre droite. Puis-je vous aider à vous relever, dit Orvet. « Vous êtes seul, oui. Et vous, dit-elle, vous n'allez pas me sauter dessus à 5 ou 6. Vous êtes bien une femme, continua Orvet.
Voyez-vous-même, dit-elle. Ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre, et Orvet sentit contre sa joue des cheveux longs et soyeux. Ils étaient agenouillés l'un devant l'autre. « Peut-on être tranquille ? » dit-il.
« Bah, au milieu de la rue, dit la femme. »
Ils s'y rendirent, se repérant sur les bords du trottoir. « J'ai envie de vous, dit Orvet. »«
Moi de vous, dit la femme. Je m'appelle... »
Orvet l'arrêta.
« Ça m'est égal, dit-il. Je ne veux rien savoir d'autre que ce que mes mains et mon corps seront.
Bah, « Prenez, dit la femme. »«
Naturellement, constata Orvet.
Vous n'avez pas de vêtements ?»«
Bah, vous non plus, dit-elle. »
Il s'allongea contre elle. « Rien ne nous presse, dit-elle. Commencez par les pieds et remontez.
Oh. » Orvet fut choqué.
Il le dit. « Comme ça, vous vous rendez compte, dit la femme. Nous n'avons plus à notre disposition, vous le dites vous-même, que le moyen d'investigation de notre peau. N'oubliez pas que je n'ai plus peur de votre regard. Votre autonomie érotique est dans le lac. Soyons francs et directs.
« Vous causez bien, dit Orvet.
Je lis les temps modernes, dit la femme.
« Allons, dépêchez-vous et faites mon initiation sexuelle. »
Ce que fit Orvet à de nombreuses reprises et de diverses façons. Elle avait des dispositions indubitables et le domaine du possible est étendu quand on n'a pas peur que la lumière s'allume. Et puis, ça ne s'use pas, après tout. C'était là une vie simple et douce qui fait les hommes à l'image du dieu Pan. Cependant,
la radio signala que des savants notaient une régression régulière du phénomène et que la couche de brouillard baissait de jour en jour. Il y eut un grand conseil, la menace étant de taille. Mais on trouva vite une solution, car le génie de l'homme est à mille facettes. Et lorsque le brouillard se dissipa, ce qu'indiquèrent des appareils détecteurs spéciaux, la vie put continuer heureuse, car ils s'étaient tous crevés les yeux.
C'était Matière à réflexion, l'amour est aveugle, extrait d'un recueil intitulé Le Loup-garou de Boris Vian. Lecture, Hervé.